Certainement pas le savoir ou l'intelligence, ni même la technique. Le vieux Cheikh nous avait raconté que les derniers Occidentaux qu'il avait recueillis, Européens sans aucun doute, étaient venus en camping-car et que l'horrible ronronnement de leur générateur, pour le frigo on suppose, l'avait empêché de dormir toute la nuit. Seul le colporteur, pensais-je en urinant sous la comète de Halley, en scrutant l'obscurité pour vérifier que le chien ne s'apprêtait pas à me bouffer les choses, seul le colporteur partage réellement la vie de cette tribu, puisqu'il y participe. 8 mois par an, il renonce à tout pour fourguer ses babioles. Nous autres restons des voyageurs, enfermés dans le soi, susceptibles, qui sait, de se transformer eux-mêmes au contact de l'altérité, mais certainement pas d'en faire l'expérience profonde. Nous sommes des espions. Nous avons le contact rapide et furtif des espions. Chateaubriand, lorsqu'il invente la littérature de voyage avec Itinéraire de Paris à Jérusalem en 1811, longtemps avant Stendhal et ses Mémoires d'un touriste, plus ou moins au moment de la parution du Voyage en Italie de Goethe, Chateaubriand espionne au profit de l'art. Il n'est certes plus l'explorateur qui espionne pour la science ou pour l'armée. Il espionne principalement pour la littérature. L'art a ses espions, au même titre que l'histoire ou les sciences naturelles ont les leurs. L'archéologie est une forme d'espionnage, la botanique, la poésie aussi. Les ethnomusicologues sont les espions de la musique. Les espions sont des voyageurs, les voyageurs sont des espions. Méfie-toi des histoires des voyageurs, dit Saadi dans le Golestan. Il ne voit rien. Il croit voir, mais n'observe que des reflets. Nous sommes prisonniers des images, des représentations, dirait Sarah. Et seuls ceux qui, comme elle, ou comme le colporteur, font le choix de se défaire de leur vie, si une telle chose est réellement possible, peuvent parvenir à autrui. Je me rappelle le bruit de mon urine tombant sur les pierres dans le silence enivrant du désert. Je me rappelle mes petites pensées, bien futiles au regard de l'infinité des êtres. Je n'avais pas conscience des fourmis et des araignées que je noyais dans l'urée. Nous sommes condamnés, comme dit Montaigne dans son dernier essai, à penser comme on pisse, en chemin, vite et furtivement, en espion. Seul l'amour, pensais-je en regagnant la tente, en frémissant de froid et de désir au souvenir de la nuit précédente, nous ouvre vers autrui. L'amour comme renoncement, comme fusion. Rien d'étonnant à ce que ces deux absolus, le désert et l'amour, se soient rencontrés pour donner un des monuments les plus importants de la littérature universelle, la folie de Majnoun, qui hurla sa passion pour Leïla aux cailloux et aux vipères à cornes. Leïla qui l'aima, aux environs de l'an 750, dans une tente toute pareille. La paroi en peau de chèvre était refermée. La lumière de la lampe à gaz filtrait par une petite porte. Il fallait se baisser pour entrer. Bilger était à moitié allongé sur un matelas de laine, un verre d'infusion de cannelle à la main. Sarah avait disparu. Elle avait été invitée à passer du côté des femmes, dans la deuxième pièce de la tente, tandis que nous restions, Bilger et moi, avec les hommes. On me déroula une couche recouverte d'un édredon qui sentait bon le feu de bois et l'animal. Le vieil homme s'était allongé. Le colporteur s'était enroulé dans un grand manteau noir, une position de prophète. Je suis au désert, comme Raïs, le fou de Leïla, si amoureux qu'il a renoncé à son être pour vivre avec les gazelles au milieu de la steppe. À moi aussi, on m'a enlevé Sarah, me privant de ma seconde nuit contre elle, chaste nuit d'amour pur. Et j'aurais pu crier à la lune ou à la comète des vers désespérés chantant la beauté de ma bien-aimée, que les conventions sociales venaient d'arracher à mes soins. Je pensais aux longues courses de Kreis Majnoun dans le désert, pour pleurer de désespoir sur les traces du campement.